vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin.
Épisode numéro 95, chers amis, bonjour. Aujourd'hui, c'est un peu spécial car nous sommes à la veille de ces fameuses fêtes de fin d'année où tout va s'arrêter. Vous l'avez bien connu, va bien entendu continuer à la rentrée en janvier grâce à l'enthousiasme et à l'amitié et à la confiance de toute l'équipe de Radio Judaïka Strasbourg. Donc, aujourd'hui, on va partir au ski, les Alsaciens au ski. Bon, je n'ai pas vérifié la météo, y a-t-il de la neige ? Il y a en tout cas de la musique, c'est celle de notre chère collègue Astrid Ruff, petit clin d'œil sympathique pour terminer cette année et qui va nous accompagner pendant tout l'épisode avec les accordéons qui font penser que l'on est quelque part dans les rues de Strasbourg au marché de Noël. Voilà, les bonheurs en autocar. Ce sont des tout petits souvenirs magnifiés, comme les émois de nos 12 ans, et j'y repense après avoir lu à l'instant dans « À la recherche du temps perdu » comment Proust raconte qu'il était tombé amoureux d'une jeune fille qu'il observait au loin. Elle se promène sur la plage et il écrit qu'il l'aime déjà d'un amour vraiment éternel et qu'il pourrait mourir là tout de suite pour elle, mais que le lendemain, au milieu de toutes les jeunes filles à l'ombre des parasols, il ne pense même plus à essayer de la reconnaître. À Haguenau, il y avait les autocars Anthony. On les prenait quand, 2 ou 3 fois par hiver, on allait au ski avec la mairie, on nous prêtait tout l'équipement. On allait au Champ du Feu ou au Schnepfenried, et le chauffeur était toujours le même. Les plus audacieux prenaient les places tout au fond du bus, au milieu des sacs de chaussures et des skis entassés, parce que là, il y avait toujours les 2 filles du dentiste qui embrassaient les garçons sur la bouche. Certains disaient même avec la langue. Mais moi, je n'y suis jamais allé, mais c'est certain que c'est vrai. Hein. On aimait aussi se raconter une autre histoire. Celle de Marie-France, qui était amoureuse du chauffeur. Et cette histoire aussi est vraie, car lorsque l'on raconte plus de 3 fois la même chose, ça devient vrai. Le matin, Marie-France allait au dépôt et elle grimpait dans le car sans savoir quelle allait être sa destination. Il y avait toujours une place de libre ou quelqu'un qui se désistait, ou bien on pouvait s'asseoir à 3 sur les 2 sièges. Puis elle se débrouillait pour être devant, tout près du siège du chauffeur. Alors, il devait bien l'aimer car il ne disait rien, il la laissait faire. Elle restait dans le car vide quand les passagers faisaient des visites. Elle attendait, c'est tout. Alors elle a vu plusieurs fois le Haut-Königsbourg, le Mont-Saint-Odile, et une autre fois, c'était avec un club du 3e âge, la route du vin et les bords du Rhin, et au retour, la cathédrale de Strasbourg. On rêvait avec elle, et franchement, on était jaloux. Alors un jour, le car est parti en Autriche, et c'était pour 1 semaine. Et on a appris dans la cour de récré que les parents étaient morts d'inquiétude, qu'ils avaient alerté la police, et comme il n'y avait pas encore de téléphone, personne ne savait où Marie-France était. Quelqu'un a raconté l'histoire du car et qu'elle séchait la classe des journées entières. Les parents ont alors certainement contacté l'Autriche et nous, on l'imaginait dormant dans la montagne en mangeant des bratwurst et en buvant de la bière. Ah, je l'ai revue 30 ans plus tard, Marie-France. Mais en fait, c'est elle qui m'a reconnue et on s'est à nouveau perdu de vue. Et je viens d'apprendre qu'elle est morte d'un sale cancer dans une petite ville du Texas, et peut-être aussi de chagrin après la mort de son fils dans un accident de voiture contre un autocar.
tu es venu de Russie. Tu étais encore tout petit. Maintenant tu vis à Paris, dans le Marais, dans un taudis. Tu parles yiddish, tu parles français. À l'école t'es toujours premier. Ton père travaille dur comme tailleur. Il te voit médecin, professeur. Enfant caché, petit enfant, sans ton papa, sans ta maman. La nuit tu pleures dans ton lit, plein d'angoisse et de nostalgie. Un jour ton père t'a expliqué que vous deviez vous séparer. Un monsieur t'a conduit longtemps, t'a confié à des paysans. Tu t'appelles plus Jacob mais Jean. Tu gardes les troupeaux dans les champs. Tu vas à la messe le dimanche. Durer la vie est long le temps. Enfant caché, petit enfant, sans ton papa, sans ta maman. La nuit tu pleures dans ton lit, plein d'angoisse et de nostalgie.
Astrid Ruf, enfant caché, c'est une autre histoire. On continue avec un vieux monsieur. Il est centenaire et avec les élèves de l'école, on va lui rendre visite à l'EHPAD. Et vous allez comprendre qu'il n'est pas du tout gaga et qu'à 100 ans, il a la pêche de 20 ans. Et cette histoire s'appelle « Les adultes sont des cons ». C'est comme les oiseaux qui étaient des cons, Chaval, je crois. Encore une histoire de centenaire. On entend du bruit, toc, toc, toc. C'est qui est là ? Alors les gamins entrent penauds dans le salon de la maison de retraite médicalisée. C'est l'école. Et on ne vous apprend pas qu'on ne dit pas kiki. On vient pour l'interview. Ah, vous m'avez apporté quoi comme cadeau ? Mais c'est pour la fin, une boîte de chocolat. Eh bien, vous n'avez pas beaucoup d'imagination. Je vais faire une sieste de 5 minutes et pendant ce temps-là, trouver une autre idée de cadeau. Et il s'endort. Alors, ce n'était vraiment pas comme cela qu'ils avaient répété en classe pour l'interview du vieux monsieur. Bon, s'il vous plaît, première question. C'était quand vous aviez notre âge? Eh bien, c'était le début de la guerre. Alors, mon cadeau, cherchez pas. Je veux un vélo électrique. Ah, vous faites encore du vélo? Mais je conduis toujours ma deux chevaux. Non, je blague, j'ai une vieille Volvo. Elle roule très bien, comme moi. Bon, question suivante. Quelle est la chose la plus importante dans votre vie ? C'est quand j'ai trouvé au grenier un cahier où mon père raconte comment il a tué des Allemands dans une tranchée à Verdun. Et je me suis dit que si c'est lui qui avait été tué, moi je ne serais pas là. Les gamins plongent dans leurs feuilles pour trouver la question suivante. À quel âge vous vous êtes dit « je suis une personne âgée » ? Ah, vous voulez dire un vieux ? Les gamins sont un peu... Vous connaissez Sénèque ? Les gamins sont encore un peu... C'est un philosophe romain. Alors, ce n'est pas le nom d'un chien. Sénèque a écrit un traité intitulé « De la brièveté de la vie » et on connaît une citation « Seul le temps nous appartient ». Eh bien, je vais vous dire, petits élèves, moi j'ai tout le temps l'impression de ne pas avoir le temps. Je suis toujours en retard. Je fais trop de choses à la fois. Et vous prenez des notes, là ? Écrivez, vous allez écrire ce que je vous raconte. J'ai eu une vie heureuse, même si j'ai traversé beaucoup de malheurs. Il ne faut pas croire que l'on oublie les mauvais moments. À 15 ans, comme vous, j'avais la tuberculose. Le docteur a dit à ma maman que j'allais mourir. Les gamins sont complètement abasourdis. Qu'est-ce que vous aimez bien dans la vie ? La confiture de framboise. Est-ce que vous allez écrire que je suis un rigolo ? Je crois que je suis un homme triste. Je fais beaucoup de cauchemars, mais quand je me réveille, j'adore, comme si je sortais du cinéma. Vous avez vu Casablanca ? Les élèves se concertent pour trouver dans leur liste une autre question. Vous avez beaucoup voyagé ? Oui, parce que c'est drôle de se coucher chaque soir dans un autre hôtel. Le matin, il me fallait un peu de temps pour savoir où j'étais. Vous avez déjà fait de l'autostop sans avoir pris et sans avoir de destination ? Mon fils est parti une année en Angleterre pendant 3 semaines. Il avait 15 ans. et on a eu sa carte postale 2 jours après son retour. Mais on n'était pas inquiets. Vous n'allez pas me croire, mais je ne me souviens presque plus de ma famille. Il y a des petits-enfants qui vont venir avec d'autres boîtes de chocolat débiles. Ils n'auront rien à raconter et je vais m'ennuyer. En fait, je n'aime pas les vieux. Être vieux, c'est faire croire qu'on se prend au sérieux. Pas moi. Par exemple, je n'ai pas encore de couche-culotte. Ah ça vous bouche le trou du cul, hein, les petits gamins, hein, les mômes. Je vais vous donner un conseil. Ne soyez pas impatient d'être des adultes. Moi, je ne me sens pas bien dans le monde des adultes. Je ne vous dis pas cela pour que vous fassiez les clowns, mais pour que vous profitiez de ces moments magiques où l'on s'enthousiasme pour tout.
Spiel Gitarre, bis mein Zahn wird euch fern. Sollen Platz des Thrones und der Zoll. Ich will mit Wein und Champagne schicker werden. Und vergessen, was gewesen ist am
Stupide guitare, Astrid Ruf. Moi, ça me fait penser à Rick Azaray. Je ne sais pas si c'est un compliment, mais je l'adore, Astrid. Et l'on va conclure toute cette série d'histoires assez vaines que je puise dans mon blog AFP Ambroise Fiction Presse avec un long fait divers, l'histoire d'un hold-up qui est à la fois triste et marrant, tendre et cruel, et que j'ai intitulé « Le tonton flingueur ». Oh les mains, c'est un hold-up. Alors la dame qui a aidé le monsieur à monter les 3 marches de la caisse d'épargne est incrédule. Oui, il a vraiment un pistolet en main. Il y a une employée du côté des chaises pour attendre et il y a la dame qui est toujours au guichet et un peu en retrait le chef de l'agence dans son bureau ouvert qui donne sur la salle d'entrée. Mais c'est tout petit. Et puis, on est à Haguenau, tout le monde se connaît. Bonjour, monsieur Dib, allez, rangez ce pistolet, on voit bien qu'il est en plastique. Mais monsieur Dib est sérieux. Il veut l'argent du comptoir. Et la consigne est claire, ne pas risquer sa vie, donner l'argent aux bandits. La caissière donne donc à monsieur Dib l'argent liquide de la caisse courante, 6 420 francs. « Vous voulez une enveloppe, monsieur Dib ?» Alors Dib, je crois que ça veut dire voleur hein, en allemand. En repassant derrière le comptoir, l'employé, qui est d'ailleurs nouvelle dans l'agence et ne connaît pas monsieur Dib, ou alors peut-être que c'était la stagiaire, on ne s'en souvient plus. Mais en tout cas, c'est bien elle qui appuie sur le fameux bouton « Alerte hold up » discrètement et qui est directement reliée au commissariat de police. Et M. Dib a empoché le montant de son filoutage. Il faut l'aider à redescendre les marches en grès, de l'agence, parce qu'en fait, il est dans un fauteuil roulant. Et le voilà qui file en remontant la Grand-Rue. Alors, arrivé chez Sichel, au feu rouge, alors c'est le premier feu rouge qui a été installé au centre-ville à Haguenau, la police, elle est déjà là. Alors, les agents, stupéfaits, ne comprennent pas. C'est quoi cette histoire de hold-up à main armée ? Mais c'est vraiment vrai, ce gangstérisme ? Ben oui, voilà, je vous rends l'argent. Ben attendez, vous n'allez pas partir comme cela. Alors, on appelle Strasbourg pour savoir quoi faire. Et en attendant, on vous emmène au commissariat, rue Georges Clémenceau. Bon, on vous attend là-bas parce que votre fauteuil roulant, il ne rentre pas dans la voiture. Alors au commissariat, on lui demande s'il veut un verre d'eau. Nous sommes en été, il fait chaud. Mais racontez-nous ce que vous avez fait. Montrez-nous votre arme. Un pistolet à eau. Allez, on vous le confisque. Au téléphone, c'est le procureur qui demande qu'on l'écroue. Et voilà Monsieur Dib dans la cellule de la cave, derrière les barreaux. Mais il aimerait sortir rapidement parce que la femme de ménage est chez lui, vous comprenez? Oui, on comprend très bien, mais là, ce n'est pas possible. Vous allez être en garde à vue. Alors, la cellule de la cave, rue Georges Clémenceau, est sordide. Elle est rarement utilisée. Une horreur de saleté. Une plaque de béton à 40 cm de hauteur sert de chalet à un matelas pourri. Et il n'y a qu'un soupirail où la lumière du caniveau n'arrive pas à traverser les toiles d'araignée. Alors les policiers sont aussi embarrassés qu'aimables. Ils donnent une couverture, c'est le règlement. Ils permettent à la femme de ménage de lui apporter ses médicaments. Et quand elle comprend que c'est pour la nuit, elle revient avec une gamelle de fer blanc et un ragoût de chez elle. Les policiers lui demandent de reprendre le fauteuil roulant qui encombre. Ils ramèneront M. Dib en voiture. Il est polio depuis l'âge de 8 ans et son fauteuil doté d'un pédalier sur le devant en hauteur qu'il actionne à la force de ses bras. C'est un fauteuil qui avait été récupéré chez un cul-de-jatte de Verdun que l'armée du Kaiser avait ainsi soigné en 1919. À moins que cela ait été les gueules cassées françaises qui l'eût pris en charge. Enfin, à la mort du soldat, on l'avait donné au jeune polio. Bref, un engin qui suscite encore le respect. Alors, quand un avocat, appelé par un policier, vint le voir en lui disant qu'il était commis d'office, Adolphe Dib, alors oui, Adolphe, c'est son prénom, hein, il était né en 1927, et Adolphe est un prénom que l'on trouvait dans toutes les familles en Alsace. Adal, Wolf, le loup, noble. Après la guerre, pour faire plus simple, les Adolphes ont changé pour Alfred. Il ne fallait pas donner prise aux nostalgiques ou aux moqueurs. Et le prénom était devenu maudit. Donc Adolphe trouva que cela prenait une trop grande ampleur et que l'on finisse, je paye une punition pour le déplacement et laissez-moi rentrer chez moi. Eh bien non ! Il fallait qu'il comprenne qu'il était passible des assises. C'est quoi ça, les assises ? C'est-à-dire un vrai procès, un crime puni de plusieurs dizaines de milliers de francs d'amende et des années de réclusion criminelle. Tout ça pour un hold-up à la caisse d'épargne et j'ai rendu l'argent. Alors, l'histoire de M. Dib a vite fait le tour de Haguenau. Le journal n'a pas trop osé raconter les détails. Et le directeur de la caisse d'épargne a annoncé à tout va que lui, personnellement, et les employés ne portaient pas plainte. Mais le siège à Strasbourg déclara qu'il ne pouvait pas intervenir, que c'était à la justice de tout prendre, cela, à bras le corps. Au bout de 2 jours, les policiers le ramenèrent à la maison. Le docteur trouva qu'il n'allait pas bien. Il avait l'interdiction de sortir du département, de rencontrer les témoins, de faire des déclarations. Un vrai criminel. Il fallut attendre 3 années, aussi longues qu'un siècle, et ce fut enfin le procès à Strasbourg, dans le grand tribunal, avec des journalistes partout, sa photo dans Paris Match. Il n'avait pas eu le droit de répondre aux questions de Frédéric Potcher, de France Inter et de l'ORTF. C'est que l'on savait maintenant pourquoi il avait braqué la caisse d'épargne. Il était le responsable de l'association La Lune au Soleil, une association d'aide aux enfants poliomyélites. Il avait rempli un dossier pour un prêt à la caisse d'épargne de 20 000 francs pour acheter un combi Volkswagen d'occasion. Alors c'était pour faire des excursions avec une remorque pour les fauteuils roulants et la première destination était le lac Titisé à 147 km, partir tôt le matin et rentrer tard le soir pour des enfants qui n'avaient pour seul horizon que le foyer d'accueil médicalisé derrière la maison Saint-Gérard. La caisse d'épargne n'avait même pas répondu et quand il était allé voir le directeur, il lui avait dit qu'une association de droit local ne pouvait pas faire un emprunt, qu'il fallait demander des subventions, faire un dossier pour le budget de l'an prochain à la ville. Mais le combi, il est en vente maintenant. Et il pourrait partir en excursion dimanche dans 15 jours. Il y a un moniteur d'auto-école de chez l'ERENA qui était prêt à faire le chauffeur de bus gratuitement. Alors, si on ne lui prêtait pas l'argent, il avait décidé de le prendre. Alors, l'histoire était belle et émouvante. Mais la justice est rigoureuse et implacable. Le procureur rappela qu'un hold-up est un hold-up et qu'une arme est une arme, qu'elle soit efficace ou non, et que le trouble à l'ordre public était manifeste. Un procès aux assises, l'avocat de la défense peut appeler plein de gens à la barre. Le maire lui-même vint exprimer le respect que la ville avait pour ce monsieur. Il n'osa pas dire courageux. Le témoignage d'un enfant en fauteuil tira des larmes à toute l'assistance. Et puis, une vedette vint défendre monsieur Dib. L'acteur Lino Ventura, en personne. Il dit « Je ne connais pas ce monsieur, mais je connais la détresse qui l'a poussé à agir. » Les enfants pour qui il a voulu braquer une banque ne sont pas comme les autres. Ce sont des anges incompris. La médecine les appelle des enfants inadaptés. Parfois ils meurent jeunes, parfois ils survivent longtemps, adultes. Il faut avoir la dignité de leur permettre d'aller jusqu'au bout de leur vie. Et ce n'est pas le cas. Lorsque vous rencontrez un enfant pas comme les autres dans la rue, il ne faut pas le regarder comme un monstre. Ce n'est pas de la pitié dont il a besoin, mais de la justice et de la chaleur humaine. Voilà ce qu'a dit Lino Ventura. Et il faut de l'argent pour les aider à s'intégrer dans la société. Alors, continua Lino Ventura, braquer une banque, c'est peut-être un cri de désespoir. « Monsieur Dib, on vous écoute, monsieur. Vous savez, quand moi je braque une banque au cinéma, tout le monde est heureux et on m'applaudit. Eh bien, dans la vraie vie, je voudrais aussi vous applaudir. » Le procureur ne laissa pas l'émotion prendre l'avantage. « Non, monsieur, les bons sentiments ne permettent pas de bafouer les règles de la société. Vous imaginez, chaque fois qu'une association aura besoin d'argent, elle ira prendre un pistolet en plastique à la main ?» Ah, je demande l'application de l'article 311-9. Avant que le jury ne se retire pour délibérer, avez-vous quelque chose à ajouter ? Demanda le président. Oui, merci le juge. Tant pis pour la prison. Mais qui va payer un nouveau combi ? Monsieur Dib ne se rendait pas compte qu'il risquait une peine jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle et de 600 000 francs d'amende. Il ne fut pas acquitté, condamné à 3 ans avec sursis et 1 franc symbolique d'amende. Quand il quitta le tribunal, dans sa chaise roulante à pédalier manuel, il traversa une haie d'honneur qui applaudissait comme à l'arrivée du Tour de France. Dans les jours qui suivirent, il se passa quelque chose d'extraordinaire. Tous les jours, le facteur passait, avec la petite camionnette, déposer des paquets au local de l'association. Des dizaines de paquets postés de toute la France, et en les ouvrant, on y trouvait un pistolet en plastique et une enveloppe avec plein de billets.
Toute la famille côté de mon père est venue de Lituanie. Toute la famille côté de ma mère, elle est venue de Varsovie. Alors dites-moi pourquoi, comment, par quelle erreur de notre histoire, nous mangeons invariablement le vendredi soir. Le couscous du vendredi soir, boulette à rissa.
Merci Astrid Ruf avec le couscous du vendredi soir. Voilà, c'est la fin de l'épisode 95. Merci à tous les auditeurs de Radio Judaïque à Strasbourg pour leur belle attention. On se retrouve en janvier avec une interview insolite, celle de Nir Cohen, commandant de Tzahal, qui vous racontera qu'il aime Citizen Kane. Vous l'avez bien connu le mardi à 11h30 et le dimanche à midi à la technique Thomas Marinelli. Je lui souhaite une bonne année à Thomas et mon nom c'est Ambroise Perrin. Two fellows meet like you and I. No connection between